cours du spectacle de ce soir, qui sera donné ici même à 21h. Et ensuite, les portes se reposent. C'est un spectacle très éprouvant. Il y a des tourbillons solo dont je suis l'auteur en qualité de groupe d'investigation dramaturgique. En l'occurrence, je suis un groupe qui est plus à on va faire voir l'acoustique.
C'est une salle complètement défaite.
Oui.
J'ai dormi. Faites comme, pas comme d'habitude. Vous vous rapprochez, vous êtes solidaire de la problématique qui fait que nous œuvrons dans cette salle complètement défaite. Vous vous sentez solidaire, un peu moins consommateur que d'habitude. Vous vous approchez, vous essayez de tendre l'oreille. J'ai vu tout à l'heure dans le premier spectacle dans la minute, j'étais à 5 points. J'ai resté, il a fallu que je fasse un certain petit effort pour entendre un peu mieux. Mais néanmoins, dans ce petit effort, on s'y entend davantage.
Donc, petit tourbillon solo dont je suis l'auteur, en qualité de groupe d'investigation dramaturgique. En l'occurrence, je suis ce groupe qui est plus important que cinq auteurs. Et c'est trop loin à expliquer. Et je suis aussi le seul acteur. Une lointaine tradition racontait que les enfants de Médée et de Jason avaient été lapidés par les gens de Corinthe, après qu'ils eurent porté à la princesse, future épouse de Jason, des cadeaux mortels de la part de leur mère, qui voulait se venger d'avoir été trahie et répudiée. Et voilà que longtemps après, le dramaturge grec Euripide s'empare de Médée, une innocente, répudiée par Jason, bannie par le roi, meurtrière de la princesse, et en fait une héroïne tragique, une infanticide qui égorge ses enfants pour se venger de Jason. À sa suite, tous les auteurs ont repris ce personnage, mais moi, comme il n'y a pratiquement pas de cas connu de femmes qui aient tué leurs enfants pour se venger par jalousie, et comme il y en a par contre beaucoup qui ont tué pour des tas d'autres raisons, j'ai douté du choix de Euripide. Je reviens donc à la BD des origines, qui rappelle la fiction dont elle est victime et qui convoque toutes les Médées de l'histoire. Se lève alors en elle une foule tragique. Elles arrivent nombreuses, diverses, de partout, et surtout d'aujourd'hui. C'est une tragédie. Mais tout de suite, je vais me lancer avec la collaboration de Bernard Buba dans la première lecture publique d'un texte écrit du 19 et 23 mars 1991 et revue du 21 au 25 mai 2004. Qui s'intitule « L'auteur avec un acteur dans le corps ». Mais je préfère dire « L'auteur avec un cabotin dans le ventre ». C'est plus clair, plus charnel, plus dramatique. C'est cet été-là, en 66, que la malédiction semble m'avoir frappé. Que le malheur a commencé, mon vrai malheur. Je contestais l'institution. De ne pas être assez, de ne pas faire assez. Et pour cela, je donnais la parole à cet acteur-là dans mon corps, là dans mon ventre, sans me douter que le cube sur lequel je le faisais monter, pour figurer une statue contestataire, il allait s'en faire un tremplin pour bondir à travers mon corps jusqu'aux étoiles, il le croyait. Quelque chose naissait en lui, son moi, et lui en moi, ce parasite. Cet été-là, nous avons décidé de jouer acte sacrilège au pieu même du palais, une pièce contestataire. Et le off fut lancé. Cet été-là fut un été décisif pour moi et surtout pour mon locataire, mon pensionnaire, mon hôte permanent, mon privé, mon arbre d'année. Il s'opéra en lui un changement invisible, une transmutation que je ne vois que maintenant. Et il se mit à naître et à proliférer. Oh non, ce fut pas un changement brutal, mais plutôt une lente et irrésistible croissance. À partir d'une image de presque rien, une image d'une extrême banalité, mais une image provenant de l'acteur roi, pas de l'auteur, non, pas, mais de l'acteur, venu de son désir, de son imaginaire. Ces images, j'ai appris à à les distinguer avec le temps. Celle qui venait de moi, celle qui venait de lui. Moi, je veux m'exprimer. Lui, il veut s'exprimer. Moi, montrer, lui, se montrer. En ce temps-là, je ne le savais pas. Il se mit à rêver et à piaffer. Il se vit en héros de fuite. Il me força à revenir à la moto de concessionnaire. À l'époque, la 700 PSA, puis la 650 Yamaha, copie de la Twin Bonneville de Triomphe et le Bombe. Et puis, j'ai dû abandonner le costard cravate, le chapeau au feutre, élégant. Et j'ai repris le blouson noir, le casque et les bottes. Où il gagne bonjour, il m'a fait basculer. Et sa saga à lui a enfin commencé. Il m'a fait reprendre ma tragédie grecque. Il jouait le héros, Xerxès. Vous avez repris le texte des Perses à Troie. Alors il jouait le héros, Xerxès, sa propre mère, Atossa. S'il avait pu, il aurait joué aussi son père mort, Darius. Ça ne lui aurait plu. En même temps, la Trinité, le père, la mère et le fils. Il aurait pu, peut-être, s'il y avait pensé, il m'aurait alors obligé à trouver une idée. Et moi, l'auteur, moi, j'aurais eu une idée pour répondre à cette demande de mon acteur. Si par hasard, j'avais pensé, heureusement que non. C'était un spectacle athlétique que nous jouions en 12 endroits, en pantalon de cuir, noir et haute, comme une bande de volume. Une bande qui allait vivre pendant plusieurs années pour un grand nombre de spectacles, de manifs et de perfs, comme vous dites, de performances. Lui, toujours au milieu du plateau, bien sûr, brandissant un jour le cadavre de guerrier. Perdona, hermano, esta tristeza nuestra. Perdona, los compañeros, nuestra vida. Il naissait entre les jambes d'une fille, sur la scène. Il balançait de la peinture rouge sur tout le monde. Il organisait un combat de boxe entre un hippie bleu et un garde rouge. Et il gueulait en ricanant. Comment être révolutionnaire en France de notre temps? Il secouait l'échelle, poignée de force au bras, et il gueulait. Ils se traînent, ils en ont marre, ils ne savent plus ce qu'ils disent, ils ne savent plus ce qu'ils font. On les a trop pris pour des cons, ils ont à peine de chemise, et ils ont même pas l'histoire. Les rebelles! Ça plaisait. On venait d'entrer dans les zones rouges, les feux étaient interdits. Il ne lui fallait pas beaucoup de temps pour faire admettre ses manières de voler. C'est avec ses rires carnassiers, ses distances dans le regard, ses transes forcenées en soulevant la tête pour s'asphyxier d'un voile noir, d'un voile rouge, ses rictus et ses mouvements. Oh, quel homme! Les 2 heures pour lui passer comme un soupir, quand il jouait et s'excitait. Il a grandi en moi, il y a pris du poids, il a tout avalé, il a tout exigé. Il a voulu que je lui écrive des personnages. Certes, lui, il m'a laissé reprendre un temps le droit chemin. Et retrouver une juste ligne de masse, comme on disait alors. Et j'écris une pièce comme on ne veut plus écrire depuis longtemps, fondée sur la première phrase du Capital. La richesse des sociétés, dans lesquelles règne le mode de production capitaliste, s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. C'était le petit train de M. Carré. On y voyait un affrontement historique en bleu, blanc, rouge. C'était froid, rigoureux et assez amusant. Nous avons joué ça. L'année où les Yankees ont fait croire au monde qu'ils allaient marcher sur la lune. Nous, on n'y croyait pas. Tout le monde sait maintenant que c'était tout bien sûr. Mais lui, il n'était pas dans la lune. Alors, il était là sur la terre plantée. Et tout de suite après, il a coupé tous mes élans. J'ai voulu, il est venu se mêler de la lutte des classes. La pièce suivante se passait dans le port du Havre. Il devait jouer un rôle sur les 7 choisis. Il a fallu qu'il les joue tous les 7. L'un après l'autre, le docker, le métallurgiste, le marin, le noir, le paysan, le ouvrier, etc., examinant leur cas pour voir s'ils convenaient. Il a voulu chanter des chansons interminables. J'ai dû apprendre à jouer la guitare, puis la flûte, puis la trompette, l'accordéon. J'ai fait ce que j'ai voulu, honnêtement. Je ne suis pas un virtuose. En plus, il a fallu que je fasse le pitre, que je fasse le bruit, moi qui suis si discret. Mais son credo à lui sera toujours, c'est Macbeth. Il le ressent cette permanence. Life is but a walking shadow, a poor prayer. That's why the threat is out on the stage, and there is no more. It's a day full of sounding for it, all by naked, sacrificing nothing. La vie n'est qu'une ombre qui marche, un pauvre acteur qui s'écoumande une gueule pendant un temps sur la scène et qui qui n'est pas plus entendu. C'est un conte plein de mille fureurs dit par Vignon, qui est signifiait. Voilà, c'est son crime. Tonitruant, grande gueule, provocateur. De temps en temps, je me suis échappé de cet enfer pour faire d'autres pièces. D'autres pièces ne me tenaient pas le rôle principal. Avec beaucoup de gens. Mais si c'est la moindre occasion, tout lui était prétexte pour se mettre à l'avant de manière imaginaire. Un jour, le directeur du théâtre d'État, Marseille, m'a demandé à quoi je travaillais. Il voulait nous embaucher pour moi, je le chier. Je lui ai dit, je travaille à deux pièces. L'une sur la révolutionnaire, Rosalie. Je n'avais pas fini de dire son nom, pas fini d'énoncer, pas fini d'annoncer. Le directeur prudent m'a dit non. Et l'autre pièce, elle parle de quoi? Ben, l'autre pièce, elle parle de la pièce de la peste de Marseille en 1720. Ben voilà, me dit le directeur, voilà un bon sujet qui concerne cette vie même, qui se passe dans une époque ancienne. Que se dit-il? J'ai mis ses soins. Je savais plus quoi dire. J'ai dit d'accord et au revoir. Mais l'acteur, notre type, là-dedans, mon double, mon double noir qui était là, bien sûr, et qui assistait à la scène. Dès que je fus rentré, c'était comme s'il m'attendait avec son billet à la main. D'abord, il s'est exclamé. Non, mais tu vas pas obéir à ce trouillard. Tu vas faire ce qui te plaît. Alors voilà, c'est formidable. On fait les deux pièces en même temps. Moi ? Alors voilà, moi je remets l'auteur. Moi ? Tu veux me faire moi ? Ben ouais, je fais quoi ? Moi l'acteur, je fais l'auteur. Je fais le narrateur. Tu vas voir ça. Je tape le tambour. Je suis en transe. Je lance les chiens de l'imagination sur ma peste, la piste, ma peste. Il y a donc les chiens de la crise en rayon échevelé qui se démêlent pour raconter la peste. Moi, je tape le tambour et je fouette les dos avec autorité. Ces salopes de chiens, elles font apparaître la révolutionnaire sous son chapeau avec mes salopes. Alors je gueule, je la renvoie, je remets les chiens en place et sur les rails de l'imagination. Et tout ça commence comme ça. Plusieurs fois de suite. Formidable, non ? Allez, mettons. Ouais, c'était assez formidable. Une curieuse idée. J'ai dû lire ce conflit, faire deux pièces en une seule. C'était une très bonne pièce, mais on ne l'a finalement pas jouée dans le théâtre d'État. C'était prévisible. J'étais toujours la proie de sa dérision. Je souffrais du moment. Il voulait tout jouer en même temps. Mais la pièce en parenthèse, on a joué chez nous, ça a eu un très beau succès. Mais à Toulouse et à Lyon, c'est la seule fois où il a été contesté. Des gens gueulaient dans la salle, et lui, tout en jouant, il répondait de la scène. J'ai oublié les choses, je les invectives. Pourquoi ? C'était des croyants. Ils m'attendaient, moi, et ils l'ont eu lui. Ils n'étaient pas contents. L'auteur ne peut pas revivre au rythme de cet acteur. C'est impossible, on meurt. Il ne fout jamais la paix. Il veut tout jouer à tout. À l'auteur, on dénie tout, comme si ça ne coûtait rien d'inventer les personnages. Après le narrateur, après la manière, il a découvert que sa véritable culture était la culture provençale, la culture occitane. Et il s'est mis à parler occitan. Il en avait des souvenirs. Moi qui les avais enfouis, j'ai dû les rechercher. Les ressortir comme si on n'avait que ça à faire. Il a truffé ma langue française, très nette et très rigoureuse, de mots et d'expressions occitanes. Au théâtre, à notre époque, là, la langue elle-même, il a fallu. Déjà, il n'en restait que des traces. Avec l'accent, c'était déjà difficile, alors avec la langue, il ne manquait plus que ça. De quoi couler à pied. C'est au Provençal, c'est au Occitan. Bon, il parla la langue de Mireille. Tu parles. Et ça, le théâtre de Pubel. Et le jeu avec l'Occitan. Il jouait un type cinglé, évidemment, qui parlait français et occitan, et qui porte un pantalon couvert de poches pleines de poupées. On aurait dit une maternité ambulante. C'était pas prévu dans le rôle, mais il fallait, paraît-il, ce colportage pour habiller la peau du personnage. Et toujours l'arrogance et l'ironie cinglante, et le sourire ravageur, la dérision. Il m'a entraîné dans la dérision. Elle lui vient sans doute de sa pratique de la scène qui doit enfler son insignifiance. Mais le pire de tout, c'est ce qu'il fit un soir à la fin de représentation, à la fête des représentations. Nous jouons une pièce qui se terminait sur le bûcher de Monseigneur. joua cette pièce sur un avion démantelé. Une aile faisait une montagne à pic et l'autre une plage contre-mer. Et bien le soir d'été, à la fin du spectacle. Un soir donc, au moment du salon, il est apparu sur le haut de la carlingue et sans avoir prévenu personne, même pas moi, il a lancé à la cantonade, avec un grand sourire, notre prochain spectacle, Géronimo, U. Voilà l'acteur. Et moi, l'auteur, j'ai écrit cette approche. Ça commençait dans un super âgé, parce que monsieur lui avait trouvé une veste de judoka qui lui plaisait pour jouer à l'Indien. Ah oui, jouer à l'Indien. Ce produit pour l'Indien. C'est un bien qui résista et qui fit, vaincu de la colonisation, la dernière chose à faire, résister. Cette chose qu'il fallait, qu'il ne fallait pas faire, c'était la dernière chose à faire. Les Indiens, nous avons le plus beau pays, aigle royal, nos chefs de guerre. Je reconnais que ce fut son triomphe. Mais ce fut aussi sa perte, car après l'avoir supporté pendant 10 ans, je l'ai fait taire avant qu'il ne m'étouffe. Le jour où tout le monde a commencé à l'encenser de la gauche à la droite, de haut en bas, et à tous les balcons pour cette approche-là, j'ai eu peur. J'ai commencé à trembler pour ma conscience. Il me compromettait. Il proclamait en scène « Le camping, c'est Trigano, le théâtre, c'est Benedetto !» C'est de moi qu'il parlait d'ici. J'ai cru mourir mort. Alors j'ai coupé. Oui, j'ai dit au lave. Pas de café théâtre et pas de farbole. Je ne voulais plus donner à jouer avec les petits rôles. Repousser, rejeter. Renier les services. J'ai plus voulu le voir se pavaner et le voir faire tout ce qu'il voulait sur la scène. Ni surtout l'entendre. Pour donner ses idées et ses délires de mégalomaniaque. Ne plus l'autoriser à me séduire, à me tromper, à me tordre ses personnages, à me faire miroiter des personnages fascinants, à me tenter par la réussite. Quelle réussite ? Une réussite ? Un histoire ? Un match ? Une carrière ? Pour arriver où à la fin ? Quelle arrivée pour quelle fin ? Qui ai-je appelé avant ? Cherchez ça. Il n'y a pas de réussite. Il n'a rien, ce n'est pas. Il a dû fermer sa gueule. Je n'avais pas envie de devenir un type qui plaît à tout le monde, un bouffon de la bourgeoisie, au pouvoir d'un abuseur. Il est donc resté au cachot, cet histrion, confiné dans des rôles sans éclat, et cela pendant 10 années. Et moi, je peux poursuivre mes recherches incertaines, selon mes propres démences épileptiques, qui sont les miennes incomparables, et d'une toute autre importance que ces phrases et ces exercices. Nous avons travaillé en paix avec des villes, avec des populations des groupes, avec dans des villes nouvelles, dans des villes anciennes, dans des banlieues, et aussi dans la ville à Rif, un immense spectacle qui commençait sur la place dans le théâtre, qui se continuait à l'intérieur dans 3 espaces, et puis la visite du jardin public des une femme, en racontant des histoires, tandis qu'un couple en blanc évoluait partout. Puis nous redescendions au bord du fleuve, et nous les emmenions en bus le long du fleuve, et puis à travers les lointaines banlieues, nous leur faisions admirer le palais dans un décor de la chaîne, et nous arrivions enfin devant un palais fort commercial, où une actrice les attendait debout sur une table et leur offrait un pastis. Et là se termina la première partie. Et là commençait la deuxième partie. Nous entrions dans cette salle immense où nous avions fabriqué une rue du centre-ville. Alors, il n'était plus question des angoisses existentielles de mon acteur au fond du corps. Il s'esquivait. Il s'isolait. Et moi, n'étais-je pas heureux. Même avec des difficultés énormes et d'énormes erreurs parfois, nous avons joué successivement, en rond, en couloir sur une ligne, dans cette salle immense et en frontal à l'italienne de l'Éternus. Nous avons joué une promenade vénitienne, un échec retentissant. Nous avons fait l'éloge de la paresse. Nous avons joué un pique-nique d'avant-guerre presque provincial de Montauban avec des poètes. Et puis 3 femmes des banlieues qui réussissent à organiser leur réunion de Noël dans le palais du pape. Nous avons joué une tragédie actuelle, 2 hommes mourus, un dans un camp, l'autre dans l'autre. Dans un camp, viticulteur qui manifestait, et dans l'autre, commandant des CRS. Nous avons joué 2 spectacles tout le long des canaux et des fleuves, de Bordeaux jusqu'à Lyon. Enfin, environ 600 km en péniche de bateau. C'était grand, c'était beau, ça ne rapportait rien. Nous avons joué un héros archétype du 19e siècle, Garibaldi, où 2 actrices apportaient des brodeaux à ce héros tout nu dans sa mémoire, qui s'exhibait avec une grosse naissance. C'était mon frère. Pour la dernière fois sur scène, tandis que nous chantions de l'opéra, au milieu d'un concert de jazz de la compagnie du Bain. Le jazz, il aimait ça. Mais il a le dire, il pétillait, il exigeait. Il a fallu que je lui écrive encore un mono, comme il disait un mono, monologue. Radio Solo, où il faisait tout. C'était l'histoire d'un type qui avait installé un émetteur sur son toit. Et chaque soir, en rentrant au travail, de sa cuisine, il l'émettait pendant des heures, tout en faisant sa soupe, puis en mangeant son pain. Il y avait aussi les spectateurs présents. Lui, dans sa cuisine, il faisait tous les personnages, bien sûr. Toujours cette manière de tout jouer tout seul. Le présentateur et tous les invités. Et puis, les chroniqueurs de la radio, de la météo, de l'histoire, de la médecine, de l'astrologie, de la bourse, etc. Les chanteurs, et puis les auditeurs, hommes et femmes qui participent au débat par téléphone. Mais ça n'a duré que 7 soirs. Il a eu la flemme d'apprendre le texte par cœur. Et j'étais sauvé de ce qu'il aurait pu me faire si je l'avais laissé tout seul, en scène, avec ce personnage complètement cinglé. Je tenais le coup vaillamment. 2 ans plus tard, ce fut pire. Il voulut être capitaine de la guerre d'Algérie. Il n'avait même pas de nom. Il appartenait à une unité spéciale chargée du contact rapproché avec la population. Il avait décidé de faire de ses hommes des gens capables de se fondre dans le pays et de devenir l'ennemi. Il leur apprenait l'arabe, il leur apprenait l'islam, l'invocation et la prière. Il leur faisait manger du sable pour en faire des mutants, pour venir marier la terre, le ciel et les hommes, afin qu'il n'y ait pas de sécession entre les pays. Un véritable fou dans une autre voie et un immense chèche tout autour de la terre. J'étais bien malheureux. D'autant plus que cette guerre achevée depuis 20 ans, continuée et continue à petit feu. Ils s'en foutaient, jouaient au fou, se délectaient. Dès que ce fut vraiment fini, je les renvoyais au néant. Et moi, dans d'autres spectacles, je commentais. Je faisais comme le présentateur. Plusieurs fois, les disques choqués, assurant le scénario et la scénographie. Je ne savais pas où il était, mais devant le film accompli, une fois que je les renvoyais au néant, je me livrais à moi-même, faire tout ce que je voulais. Me déchaîner, devenir fou à ma façon. 10 créations dans une certaine année, par mois, à moi-même livré. Et je m'étais livré, délivré, enchaîné ou déchaîné, je ne sais plus. Qu'importe le détail des pièces. Lui disparu et se désordre, réfugié je ne sais où, toutes les sabbats coupées, toutes les balises perdues, et nous sommes déboussolés sur des navires thématiques, et on perd le nom, essayant de tenir dessus. Désormais à votre courant, ne jouons plus aucun personnage. Moi-même, non, plus un seul. Les représentants du peuple appliqués à l'invention d'un cœur moderne, dont j'étais le corifu, cœur de tous les danseurs blancs de la nature, de toute la terreuse entière, et d'aujourd'hui, il a la même, se confessant aux étrangers, après l'assassinat. Cœur des ombres, tissant en filigrane des scènes de la vie d'un grand tribun pacifiste, tandis que je déroulais une litanie de mots sur sa voix de batteur sur son esprit. Cœur des musiciens, projectionnistes, acteurs qui agissaient pire que le siècle dans la traversée à moto du 13 fragile shakespearienne. Cœur des statues d'un monument aux morts, de 4 femmes debout à la tête du mort, un soldat puissant comme une masculine, à ses pieds 2 enfants de Dieu exemplaires. Statues sculptées par un sculpteur géant, dardé, que vous pouvez voir, ces monuments entre nos terres. Cœur des porteurs de bois tout autour de l'explorateur brassin. Cœur des rescapés du radeau de la Méduse. Cœur des passagers de conscience du Titanic. Cœur des Mexicains autour de Conquistador. Cœur des personnages réels de fiction gravitant autour du monteur. Cœur de rescapés à leur manuelle. Des rescapés autour de son talisman du testament. Cœur du monde qui est là autour d'un prisonnier. Avec tous ces gens partout dans le monde entier qui regardent à travers les barreaux, manquent l'âme, la liberté manquant des fruits, dans les yeux de ce prisonnier. Ah oui, tous ces cœurs de femmes et d'hommes, tous ces cœurs du monde moderne qui tournent. Que d'inventions, que de recherches, que de pistes ouvertes, que de chemins tracés. On travaillait en paix, mon acteur avait disparu. Une seule fois, il a fait une apparition. Il m'a volé le rôle très bref du conquistador. Et qu'il a joué à moitié conquistador et à moitié mexicain. Cortés, il l'a joué en chantant des airs d'opéra et en dansant comme un sauvage. Incroyablement accoutré. Ce ne fut que les fausses alertes. Il y en a eu d'autres. Une qui fut aussi très chaude. Un jour, une actrice est venue me trouver pour me demander de décrire une pièce sur laquelle le superbe Nefertiti, femme du pharaon Akhenaton, inventeur du monde d'Égypte. Alors, mon locataire, pendant le projet, Péjano, l'a voulu voler la vedette à la reine. Il me suggéra l'ardent de prendre l'action au moment où le général des puissants, qui ont repris le pouvoir et ont rasé la ville pour chasser les prisonniers, cherche la reine qui danse autour de lui dans la nuit, lointaine et proche, pour la soumettre et l'épouser. La pièce fut écrite, donnée à France Culture, mais nous n'avons pas monté les circonstances de la vie. Oui, le rôle est pour lui. Lui seul le joue, mais lui l'attendra encore. Je ne sais pas combien de temps, le plus longtemps possible, avant d'endosser la tenue de combat du général. Il en brûle de vie, moi je ne le fais pas. Il attend toujours. Je suis là maintenant, que c'est loin, je le vois. Je le vois clair, très clair, moi. Ça s'est clarifié et je peux en parler. À cette époque-là, je n'avais pas le pressentiment de ce qui se passait pour moi. Il m'est même arrivé de me trouver malin en faisant ceci ou cela, sans me rendre compte que c'était lui qui s'agissait. La scène lui a toujours fait beaucoup d'effet. Il suffit que je le trouve pour que ce soit lui qui émerge. C'est pour ça que je lis toujours des papiers, plutôt que d'improviser. Et il se réveille, il émerge, et là il fait ce qui lui plaît. Et puis après, c'est moi qui paie, sur moi qu'on met tous ses effets. Moi, pas chaman. Non, non, jamais. Moi, pas faire le pire. Moi, pas le fou, pas le loin, pas l'artiste, pas l'original, non, non. Non, pas l'histoire. Moi, normal, conforme. Gentil, moi pour français, moi rien très esprit. Moi pas la poids sur l'esprit populaire. Moi pas clou, pas esprit, pas bâtard. Moi auteur, pas acteur, non, non. Moi c'est le odora, gentleman, écrivain le plus bas la main. Le jour, par souci d'économie, je suis monté sur une selle. J'aurais mieux fait me casser la jambe. Je ne serais pas lent avec cette prolifération de mon corps. Sur l'acteur loup, comme il se dit. Vous allez voir, c'est gratiné. Pas si on pouvait l'enfermer, mais sans moi. L'acteur loup écoutait. Parce qu'un jour, il y a longtemps, dans les forêts, un jour le loup a postulé. C'est lui qui parlait écouter. Soudain, un hurlement sans fil ou liaison m'a traversé le corps et jaillit la porte. Du fond, me tirant dans le bas. Alors, je me suis allongé, écouté, affaissé sur les jambes. Je me suis allé marchant par les sentiers, par les forêts, les membres lourds, les bras ballants, la tête et la patte horrible traînant, la bras volaire et les yeux musés. J'y ai pour fermement dans ce vasile, horrible à voir, horrible à faire peur, horrible même à faire partir au courant, à se faire tirer dessus, hurlant sans amour, et les heures durant. Arpentant les sous-bois, perdu dans une forme, possédé par vous, devenu mon père. Ça. Avec ce hurlement qui monte irrépressible, venant du fond du corps et du fond de la terre, venant de l'air, des feuilles, des écorces de l'univers et du fin fond de la cervelle au feu, avec ce hurlement venant de tout partout, qui me traverse et me secoue, et nous nous disent, j'en suis plus que le vecteur de vie. La corde et la gueule du mouvement, que le support et le passage, le corps est mort de la bestialité. Ouh. Eh bien, ouais, le voilà tout entier là-dedans. L'acteur jeté sur la scène dans cet espace, avec ce petit bonhomme dedans, lui qui cherche à sentir un être. Il nous l'avoue. Avec ce loup qui demandait à hurler, l'acteur comme un vertige, il doit pour montrer le destin, mais je ne sais plus si c'est lui qui parle, c'est moi. Pour montrer le destin. Se débarrasser de son collier de chaise à mort, et de sa peau de chaise à mort, et de ses crocs limés de chaise à mort, et de sa technique de chaise à mort, et de grands bras de l'opéra, et d'ouvrir la porte pour quand le loup solitaire et joyeux, magnifique et désespéré. Comment faire, se demandent les jeunes acteurs en écoutant, comment être initié dans les forêts? Certes, la lycanthropie est la voie royale. Mais ne faites pas comme lui. Ne suivez pas son stupide conseil. N'allez pas vous jeter dans les garrigues en criant comme des putois. Vous risqueriez de rencontrer la peur armée de sa légitime défense qui vous sera. faut bien tenter le diable un peu, pour prendre quelques risques. Sinon, pas des formes majeures à surmonter. Non ! N'écoutez pas ce mot, vous serez malheureux. Moi, je l'ai capturé en le laissant bondir. Je l'ai regardé faire avec une voix et je l'ai capturé. Il est prisonnier maintenant. Neutralisé puisqu'il a été découvert dans ses secrets. Mais il attend, avec de plus en plus d'impatience, là-dedans, il attend, il redacte, il gaffe, il élit, je le sens, il élit toujours quand il joue. Et il s'en met toujours à élire ou à bûcher quand il est pas seul. N'importe quel monde faisait. Il ne sait pas se tenir convenablement. C'est un dissident, vous voyez-moi le légal. Maintenant, ton pays, de nouveau, il attend son heure. Moi, je sais ce que ça va être, il est insupportable. Oui, je sais ce que ça va être. Il m'a fait faire des choses indignes de moi, provocatrices, indécentes, inconvenantes, dont j'ai eu honte, bien sûr. Il se permet tout. Il s'étale. S'il a envie, il sort de scène. Ou il se met à parler n'importe quoi. Il s'arrête, il s'assied. Il attend. Il regarde le public. Avec un coquelard. Il tire la lampe. Il se cure les dents. Le nez et les oreilles. Il s'inonde de dos. Le visage comme ça. Comme ça, mais... il crache, il se bouche avec les doigts, il se gratte obscènement. Je sens venir, dégouger, là-dedans, la main dans sa mère, son pied dans mon pied, son œil dans mon œil pour faire une liade, comme celle. Et après, j'ai honte, je n'ose plus sortir, car je suis un homme civilisé, poli, honnête, respectueux des lois, détestant les plus utiles, les gaspillages, les dépenses inconsidérées. Car je suis un bon citoyen, un homme respecté, et même estimé, m'a-t-on dit. Alors moi, étant tout cela, j'ai honte de lui. De ce qu'il me fait faire, puis ça me passe avec la nuit porte conseil, et où d'autres portes. Oui, ça passe, voilà que l'on donnait. Il me traîne encore sur les planches. Je glisse tant bien que mal. J'essaie de résister à ses frénésies, à ses fumeurs. Peine perdue, tout va recommencer. En attendant la représentation, il sommeille en coulisses. Et puis soudain, il s'écroule en noir. Ça va encore un peu, mais attention, lumière. Il entre, il regarde la salle, et c'est parti. Ça le fouette dedans. Il prend le mort dedans. Ça recommence. Il se lance et s'élance, bondit en bondit. Et maintenant, tout va recommencer comme avant. Il va reprendre de l'ampleur, gonflé à éclater, exiger des personnages sur mesure, et pour un siècle encore, de 25 ans, 25 ans. Et comme ça s'en fait, parce qu'il est immortel. Comme un phénix, il chante. Je suis comme un phénix. Là, à travers mon corps, là, à travers ma gorge, c'est la vie et c'est la folie qui ressurgissent. Croyez-vous qu'il va tenir compte de ces cheveux-là? Non, et à ce temps, placez-vous. Il est sûr que ça pourra encore me faire une bonne tête de cul, ou de truand de certain âge, du très vieux roi, bientôt, pourquoi pas, de l'Égypte. Tout s'y pourra, de moi comme de ton fort. C'est lui qui chante après moi, ou le Tony chante. Comme un fêlé, je suis comme un fêlé. Il vous corde cette chanson aux oreilles. Exactement, le 13 mars 1991. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de lui donner un personnage. Puis il va jouer le général fou de la reine, belle reine, ou bien le conquistador à la tronçonneuse, au milieu de la forêt amazonienne, au comptoir de bar, d'un bar de la nuit, avec des indiens colons. Lui, pire que tous. Il va boire. Et moi, alors, avoir mal à l'estomac. Lui boire, moi souffrir. Lui chanter, moi pleurer. Comme un fêlé, je suis comme un fêlé. Moi déchanter, lui bomber, moi tomber, lui flamber, moi romper, relever. comme jour, lui nous revit, nous remet une force, nous remet une supplie, et nous chante encore. Comme un fée, je sais comme un fée, je ne veux pas. Mais il triomphe, je ne veux pas que ce triomphe. Pourquoi ne veux-je pas? Parce que c'est par malheur. Il plaît quand il fait ça. Que va-t-il m'arriver? Il va m'enfermer dans une cage. Femme, m'empêcher d'être homme raisonnable. Homme qui transforme le monde, cette merde de monde pourri et détestable, qui nous pourrit la vie. Mais lui s'en fout de tout ça. Mais lui s'en fout du monde. Il fait son numéro. Il fait le corps, il joue au corps. C'est ainsi qu'il pense le monde. Plutôt vomir que transformer. Il a besoin de gloire et d'applaudissements. Il a toujours le temps. Il fonce tout, de droit devant. Et moi je cours, je suis sur la langue. C'est un petit bourgeois. C'est un petit salaud. C'est une punaise. Non, le stade. Je le connais bien. Je connais mieux que personne. Il boit, il joue la guitare. Alors ça va être l'enfer pour toi. Si tu ne leur plais pas, quand tu seras lancé, ça pourra t'arrêter. Laisse-moi faire, je m'en occupe, j'improvise. Avec un bâton à la main couvert d'objets mnémotechniques, pour nous rappeler les hommes qu'on leur parle, pour nous rappeler les séquences d'Akir. Une autre fois, une femme me demande si je pourrais participer à un festival avec quelque chose sur les peuples d'Europe. C'était très imprévu, que faire? Il m'a dit, tu sais rien de l'Europe, ni des Européens, laisse-moi faire. Je m'en occupe, j'improvise. Et il a improvisé des tas de fois. C'était assez marrant. Mais heureusement qu'il semblait ne pas y avoir de spécialiste dans la salle. Je m'attendais toujours à ce que quelqu'un me gueule. Tu n'as pas fini de débiter des conneries, non? Mais ça ne s'est jamais produit. Les gens sont de plus en plus patients avec les spectacles. Ils s'attendent à faire son brancher. Et puis dernièrement, c'est une note de 2004. Ce film m'a semblé plus d'apparitions tempestives, plus d'improvisation depuis 2 ans. c'est ma paix. Je vais pouvoir enfin me consacrer à mon œuvre, fignoler 6 années d'écriture, me consacrer à un travail sérieux, et je... Excusez-moi, c'est constamment... Ma vie,